le 7-9 sur France Inter.
Votre invité Léa Salamé a été numéro 2 de la police judiciaire de Lyon.
Bonjour Michel Néret.
Bonjour.
J'ai déconné, j'ai dérivé, écrivez-vous dans ce livre qui sort cette semaine, Flic chez Plomb, et qui livre votre part de vérité. Que s'est-il passé? Pourquoi, comment le numéro 2 de la PJ lyonnaise a ainsi basculé de l'autre côté?
Je dirais qu'on m'a fait payer une trop grande proximité avec certaines personnes que je voulais recruter en tant qu'informateur dans le milieu de la haute escroquerie internationale juive. Voilà, donc cette proximité...
On vous a fait payer, c'est ça, c'est ce que vous retenez?
Non, c'est-à-dire que la justice m'a fait payer. Enfin, pour l'instant, elle ne m'a pas fait payer définitivement, mais c'est cette proximité avec, effectivement, ces imprudences qui ont accompagné cette proximité que l'on me reproche de manière assez forte.
Alors, vous parlez d'imprudence ce matin. Vous étiez un commissaire respecté, montré en exemple pendant 25 ans dans la police. En quelques mois... Qu'est-ce qui se passe? Vous vous faites avoir par des voyous que vous croyez être vos amis. Vous acceptez des cadeaux, des voyages au Maroc, des virées au casino, en boîte de nuit. Vous êtes arrêté, condamné à 30 mois de prison pour corruption. Qu'est-ce qui, selon vous, puisque j'imagine que vous avez fait votre examen de conscience, c'est quoi? C'est une immense naïveté? C'est un sentiment de toute puissance? C'est la fascination pour l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a deux choses dans ce dossier. Il y a déjà une première relation qui est une relation très amicale avec un des acteurs de ce dossier, hein, Gilles Bénichoux, qui m'a ensuite présenté son cousin, qui était Stéphane Azra, et qui est lui une personnalité beaucoup plus importante et intéressante pour moi dans mon optique policière, puisque c'était quelqu'un qui était plus ou moins impliqué dans les escroqueries à la taxe carbone. Et donc, c'est cette proximité-là que j'ai essayé de développer avec Stéphane Alzra, en espérant, à terme, obtenir un certain nombre de confidences de sa part.
Hein. Vous en avez eu ?
Alors, encore une fois, on commençait à entretenir une relation suivie, mais 6 mois, comme je l'ai expliqué devant les tribunaux, c'est une période assez courte pour se permettre de dire ma relation avec cette personne, c'est une relation qui va se construire sur une relation d'informateur policier avec des résultats efficaces. Pour moi, 6 mois, c'était une période trop courte. Et effectivement, en 6 mois, j'ai pas pu démontrer que ma relation a permis d'obtenir des informations particulières sur un dossier précis.
Quoi. Et du coup, vous êtes aussi soupçonné, ce qui vous énerve d'ailleurs, d'avoir trempé dans ce qu'on appelle le scandale de la mafia carbone, ce scandale de la taxe carbone.
Voilà, alors, il faut être très clair, j'étais en relation avec une personne qui est supposée impliquée dans la taxe carbone. La taxe carbone, l'infraction à la taxe carbone a cessé en 2009.
Hein, c'est une vaste escroquerie qui a été mise en place par l'un des protagonistes du dossier, voilà, de l'affaire Néret.
Dès lors qu'on a au protocole de Kyoto imposé des quotas de droits à polluer, ces opérations ont été vendues avec des TVA, donc ils ont monté des sociétés internationales.
Pour faire de l'argent sur une escroquerie à la taxe carbone.
Ils ont vendu leurs quotas à des entreprises françaises et ils ont gardé la TVA. Mais ces infractions ont cessé en 2009. Moi, j'ai connu Stéphane Alzra, l'impliqué dans ces dossiers-là, en 2011, en mars 2011. Donc je ne vois pas en quoi on peut m'impliquer dans ce genre de dossier-là.
Alors, ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que vous racontez l'histoire d'une grande hypocrisie. Vous écrivez, la grande hypocrisie, c'est les relations entre les flics et les voyous, entre les flics et ce qu'on appelle les indicateurs, c'est-à-dire les indics. Vous écrivez, ai-je remis de la drogue à des informateurs? Mais oui, bien sûr. Ai-je eu des fréquentations douteuses? Évidemment. Ai-je fait des conneries? Assurément, j'étais flic.
Oui, effectivement. Pour moi, la culture du renseignement, le culte de l'informateur, c'était ma base de travail. Il n'y a pas de bonne police d'investigation si vous n'avez pas de bonne infiltration dans le milieu que vous êtes censé, d'une part, identifier et ensuite neutraliser. Donc c'est la base.
L'informateur, c'est la base. C'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas, vous dites, moi, ça ne me dérangeait pas de donner 20 kilos de cannabis à un trafiquant pour qu'il me donne des informations. C'est comme ça que vous fonctionniez. C'est comme ça que ça marche.
C'est-à-dire que pour moi, dans mon esprit, j'avais un ratio qui était le ratio intérêt-entorse. Voilà. Est-ce que je pouvais me permettre une entorse si l'intérêt rapporté était largement supérieur? Il est certain que quand on m'apportait des informations sur des réseaux extrêmement compliqués, complexes à travailler et qu'on faisait une saisie de plusieurs tonnes de résine de cannabis, le principe de fidéliser l'informateur et de le récompenser en lui donnant ça me choquait pas particulièrement. Moralement, ça ne me choquait pas. Légalement, évidemment, je suis en marge. On est bien d'accord.
Légalement, vous êtes en marge, mais vous dites, au fond, ce qu'on entend dans ce que vous dites, c'est que ça a toujours existé. Et qu'en fait, le deal, c'est quoi? Tant que vous vous faites pas prendre, tout va bien. Tant que vous sortez des affaires, vous faites pas prendre. Il faut surtout pas se faire choper, c'est ça ?
Voilà. Donc, j'avais pas présupposé que à ce moment-là, j'étais sous surveillance et que les conversations que j'avais pu échanger ou avec des informateurs ou avec des collègues que j'avais incité à mettre en place le même système, je ne supposais pas que j'étais sous surveillance.
Vous dites la police a souffert de mon affaire. En quoi est-ce qu'elle a souffert ? Est-ce que ce mode de fonctionnement, par exemple, de fermer les yeux, de faire des entorses, comme vous dites, à une forme de légalité, est-ce que c'est fini ça ?
Non,
ça
mais on a durci maintenant les relations. En tout cas, on les a durcis au niveau de la réglementation. On a imposé des règles qui sont des règles strictes entre le contact entre l'informateur et le policier, sauf qu'on oublie la dimension humaine de ce contact. Et évidemment, je dirais que les textes sont un peu en décalage avec la réalité du terrain. Lorsqu'on vous impose des règles strictes et puis qu'en fait, tout repose sur un affect, puisque avec un informateur, c'est un affect.
C'est-à-dire vous êtes ami avec l'informateur
Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous le voyez toutes les semaines, pendant des mois et des années, comment voulez-vous qu'il se passe autre chose qu'une relation humaine de confiance entre deux personnes ? Bon, d'un côté, vous avez le policier, de l'autre, vous avez quelqu'un qui est certainement en marge de la loi, parce que si vous voulez pénétrer un milieu qui est par définition impénétrable ou intravaillable, il faut que vous infiltrez ce milieu-là.
Donc, est-ce que ce n'est pas un mode de fonctionnement un peu obsolète ? Ce mode-là. Est-ce qu'au fond, c'est pas le mode de fonctionnement du XXe siècle ?
Je suis convaincu du contraire, hein, parce que bon, on nous vante la police technologique, la police génétique, mais bon, on voit bien que dans certains cas, cette police-là, elle est mise en échec, hein, et que si vous n'avez pas l'infiltration humaine, très franchement, vous êtes un peu aveugle sur beaucoup de sujets. Hein.
Michel Néret, vous accusez dans ce livre le ministre de l'Intérieur de l'époque, Claude Guéant, d'avoir tout fait pour médiatiser au maximum votre arrestation et l'affaire Néret. Pourquoi ?
Je ne l'accuse pas, je constate. Je constate que, globalement, lorsque je suis arrêté une heure après, j'avais toute la presse devant l'hôtel de police avec leurs moyens lourds qui ont été déplacés immédiatement. Je constate que quelques heures après mon arrestation, sont filtrés dans la presse des extraits complets de procès-verbaux que même mes avocats n'ont pas en communication et qui ne peuvent venir que du ministère de l'Intérieur. Si là, vous n'avez pas une semi-orchestration, c'est que je m'y connais pas.
Et pourquoi, à votre avis ?
Pourquoi ? Je me suis beaucoup interrogé sur le sujet, parce que qu'est-ce que moi, Michel Néret, numéro 2 à la police judiciaire de Lyon, je pouvais justifier comme tsunami médiatique ? J'imagine qu'on a voulu à un moment donné mettre le projecteur sur mon affaire, peut-être pour qu'on parle un peu moins d'autres qui étaient à ce moment-là développés, qui étaient plus embarrassants.
Des affaires Karachi ou des affaires Bettencourt, par exemple.
Oui, c'est une hypothèse.
C'est une hypothèse que vous développez. Flic, vous ne le serez plus jamais ?
Forcément, puisque j'ai été révoqué, donc je ne le serai plus jamais fonctionnellement. Mais bon, je le reste dans ma tête, bien sûr.
Vous faites quoi maintenant ? C'est quoi votre vie ?
Déjà, j'attends que la sanction judiciaire se passe. Vous savez, j'ai publié un livre. Je vous garantis que si le parquet avait requis une peine lourde et si le tribunal avait prononcé une peine bien inférieure, jamais je n'aurais publié mon livre parce que j'aurais attendu la décision judiciaire avec sérénité. Là, le parquet a fait appel d'une peine qu'il a obtenue et qu'il a réclamée. Donc,
effectivement, il y aura un deuxième procès Néret. Ouais. En attendant, il y a ce livre-là, c'est votre vérité. Flic chez Pont, merci et belle journée.
Merci.
Merci à vous, Léa Salamé, les 8h-3.